Bonjour, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Tourne-Page avec Marie-Lise pour parler de deux livres. Claude Pujade-Renaud, Dans l'ombre et la lumière, et Odur Alva, Olavsdottir, Le rouge vif de la rhubarbe. Alors on va commencer par Claude Pujade-Renaud,
si tu
par
veux.
Exemple. Alors ce livre, Dans l'ombre et la lumière, c'est une histoire choisie au hasard sur un rayon de bibliothèque et que j'ai trouvé tout à fait passionnant, parce qu'il s'agissait de la vie de Saint-Augustin. Alors, Dans l'ombre et la lumière, Claude Pujade-Renaud, auteur contemporain, imagine la vie de la femme de Saint-Augustin.
Compagne.
Et alors, je me suis dit,
compagne, parce que oui, ça change
vrai.
Tout.
Bon, parce que c'est vrai que Saint-Augustin, le personnage, la cité de Dieu, les confessions, et puis il est sur les autels. Et là, on découvre par la plume de Pujade-Renaud que c'est un être de chair et de sang, qu'il a eu une vie et qu'il a été élevé sur les autels, peut-être pour ses textes, pour sa fonction d'évêque, pour etc., mais aussi que c'est une personne avec ses allers-retours, ses défauts, ses qualités, sa vie d'avant. Et ça permet de comprendre, alors là c'est l'aspect chrétien peut-être qui parle, ça permet de comprendre qu'un saint c'est d'abord un homme qui a une vie humaine avec ses manques, ses... Bon.
Mais justement, dans l'ombre et la lumière, il y a deux plans finalement, on peut lire que l'ombre... C'est toute la partie ombre de avant sa lumière à lui, puisqu'après il va être dans la lumière et pour l'éternité. Et l'autre part d'ombre, c'est cette compagne qui écrit.
Voilà, alors,
qui est dans l'ombre.
Pujade-Renaud, voilà, prête sa plume à sa compagne et imagine cette relation. Mais en même temps, nous sommes dans le milieu méditerranéen, donc il y a des descriptions de paysages. Nous sommes à l'époque romaine. Donc, il y a le travail de l'écriture. On n'est pas à l'ère d'Internet. Il y a le travail du rhéteur, du secrétaire de Saint-Augustin. Il y a le travail aussi des mains de ceux qui pétrissent l'argile. Et justement, la compagne de Saint-Augustin est potière, on peut dire.
Petit à petit, la vie l'a amenée à...
La vie l'amène à...
À dompter ses mains et ses pieds pour en tirer des bols ou des vases.
Voilà. Et aussi, lorsqu'elle étouffe de colère, elle écrase ses œuvres, justement. Et bon, voilà. On sent la vie d'une femme blessée aussi. Parce que c'est pas le tout. Saint-Augustin choisit la lumière de Dieu. Mais lorsqu'il choisit la lumière de Dieu, il abandonne ses amours humaines. Donc, il y a là tout un roman... passionnant.
Oui, il y a aussi l'ombre et la lumière, l'ombre de ce qu'on fait avec ses mains et la lumière de ce qu'on fait avec son cerveau. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça doit être, mais c'est comme ça que c'est souvent perçu. Et là aussi, elle est toujours dans l'ombre sur tous les plans, c'est-à-dire qu'elle est en retrait et elle s'arrange pour ôter le moindre petit caillou tant qu'ils sont ensemble. Elle le sert finalement. Et puis après, bon, elle va se rendre utile en apprenant à faire de la poterie, mais... C'est toujours dans l'ombre, tout ce qu'elle fait.
C'est dans l'ombre. Ouais. Et puis alors aussi, on saisit que Saint-Augustin a eu aussi une compagne, mais il a eu aussi une femme. Donc il y a aussi ces relations entre les personnages féminins qui sont dans l'ombre du personnage. Et là aussi, bouleversement que représente pour la compagne le fait des allers-retours et des allers-retours vers la femme. Pour Augustinus s'ajoute à ces multiples soubresauts la douleur d'avoir perdu sa compagne aimée, aimante, après 15 ans environ de vie commune. Il l'avait renvoyée afin de pouvoir épouser une jeune fille de bonne famille. J'hésite, puis je glisse d'une voix la plus neutre possible. C'était donc son choix? Ce qui n'empêche pas la souffrance. Attends, je vais essayer de retrouver le passage où il évoque cette rupture. Et donc là, c'est le secrétaire de Saint-Augustin qui évoque, auprès de celle qui fut la compagne de Saint-Augustin,
mais personne ne le sait.
Mais il ne le
sait
pas.
Sauf nous.
Et voilà. Il fouille dans les parchemins empilés à côté des tablettes. Une fluide bouffée d'odeur, je la hume, tremblant intérieurement. Je suis certain d'avoir conservé cet extrait, il m'avait frappé. Ah, voilà. On arracha de mon flanc, comme un obstacle au mariage, la femme avec qui j'avais l'habitude de coucher. Qui ça, on ? Il ne précise pas. À mon sens, ce on désigne la mère d'Augustinus. C'est elle, probablement, l'instigatrice de cette union avec la riche héritière. Bref, il y a véritablement des passages extrêmement bouleversants, et puis cette manière pudique d'évoquer ce passé, de l'effleurer. On a l'impression qu'il est loin, mais en même temps, il est prêt.
Oui. Mais en fait, je trouve que Claude Puget-Renault, c'est pas la première fois qu'elle nous emmène dans ces pays-là et dans cette époque-là. Elle est redoutable, c'est une manipulatrice. Elle arrive à nous faire croire que, par exemple, quand on lit ça, c'est fanatique. Souvent d'une grande violence, ils intimident leurs adversaires en les agressant. On dénombre quantité de meurtres et des suicides par le feu. J'en arrive à détester ces religions qui engendrent la haine et l'horreur. Le mal rôde, le mal court, s'insinue, s'incruste. Alors on se dit... déjà à l'époque, bon, alors qu'en fait, elle est d'aujourd'hui, mais elle est tellement forte qu'elle a réussi à nous faire croire que ça a été écrit à l'époque des Romains. Et puis, il y a aussi tous les plans des... On oublie un peu, ça nous paraît tellement naturel, parce qu'on a appris ça à l'école, ce que c'est que d'être envahi par un pays, et la culture qui change. Tout ce qui se passe en Afrique, où finalement c'est plus tout à fait l'Afrique quand même, et les catholiques qui veulent supprimer par la force toutes les autres religions, là c'est à ça que ça fait allusion. Et on oublie tout ça, parce que ça, nous on a pris ça à l'école, donc oh bah oui, les Romains ils sont allés partout, voilà, ils ont envahi tout le monde. Et,
alors les Romains sont allés partout, ont envahi les Puniques, et, effectivement, et puis ensuite il y a d'autres mouvements de population qui sont venus aussi.
Les barbares.
Les barbares, les Vandales donc, et là on voit... Comment...
Les Ostrogoths et les Vandales, ça m'a trop fait rire. On ne devrait pas dire ça, mais les Ostrogoths, je me suis cru dans Tintin. Mais non, c'est parce qu'il y avait eu les vrais Ostrogoths avant, que ce soit une des injures.
Voilà, en tout cas, un roman qui nous emmène dans un temps, une époque, qui paraît lointain, qui est à la fois l'histoire, mais qui en même temps nous renvoie à aujourd'hui. Parce que derrière cette histoire, derrière ce roman, il y a... Alors, on peut, disons, transférer. Mais j'imagine que dans les territoires du Proche-Orient, où on a successivement des vagues de tel ou tel, la guerre avec sa violence, finalement, derrière quelque chose qui est un récit historique, on renvoie à un aujourd'hui qu'il est beaucoup plus difficile de percevoir et que ce roman nous aide à percevoir. Parce que finalement, derrière quelques images, mais on est habitué à voir des images de bombardements, des images de cadavres, des images épouvantables. Là, on entre dans la vie d'un pays, d'une époque, qui renvoie à la nôtre. Et ça, je trouve ça tout à fait passionnant, parce que c'est plus percutant et cela nous amène à réfléchir plus qu'une émission de télévisuelle avec des images d'épouvante. Voilà, je trouve...
Et les lycéens ne s'y sont pas trompés qui, il y a longtemps, avaient donné le concours des lycéens. Je me demande si ce n'était pas le premier concours des lycéens qu'elle avait eu à l'époque.
Si, mais ce n'était pas avec celui-ci.
Non, ce n'était pas avec celui-ci.
Mais tout de même, c'est un très bon livre qu'on ne peut que recommander à la lecture. Dépaysement et puis réflexion.
C'est un petit peu sur l'éternité aussi, l'éternité de ce qui arrive, je trouve.
Oui, puisque le passé rejoint le présent. Alors, l'autre livre, c'est Le Rouge Vif de la Rhubarbe. On change complètement d'espace.
Alors, Olaf de Tyr, qui veut dire la fille d'Olaf. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû lire son premier opus qui s'appelle Rosa Candida, qui était assez. Qui a très, très, très bien marché. Et c'est vrai que je suis une inconditionnelle de la littérature islandaise, où finalement le personnage principal ou qui domine toute tous les autres, quel que soit le niveau de lecture, c'est la mère. Alors, tu as trouvé ça aussi, hein, que la mère était bien présente. Et puis, c'est toujours...
Alors, on a la mer, M-E accent grave R-E,
oui.
Et on a l'espace maritime.
Oui.
Et assez curieusement, ils se rejoignent l'un et l'autre, puisque...
Mais c'est la vie de tous les jours, hein, la mer là-bas.
Oui. Alors, on le sent ça. On sent la pulsion du milieu, la violence du milieu. La nature est omniprésente et on le comprend. Et une nature qui est ressentie comme belle, âpre, mais belle. Et puis, il y a les relations des personnages qui sont difficiles. Alors, l'héroïne est élevée par sa grand-mère, puisque sa mère est partie au loin. Et puis, le temps est rythmé dans le roman par les lettres de la mère. Et on voit au fur et à mesure que sa mère bâtit une vie ailleurs. Et la vie de cette petite fille qui grandit, qui reçoit...
Qui est handicapée aussi.
Qui est handicapée, qui reçoit ses missives, est rythmée aussi par cela. Et à la fois, cela l'emmène dans un univers poétique, le rêve, et puis en même temps des choses très concrètes. Elle est handicapée, donc pendant la récréation, elle reste dans la classe, elle regarde les collections de scientifiques qui sont là, et cela l'amène à évoquer des sentiments par rapport aux ossements qui sont là, aux personnages qui sont là, enfin bref.
Non, puis elle a surtout, enfin moi ça me frappe évidemment, elle a un caractère bien trempé, c'est-à-dire que son handicap c'est « je fais comment pour y arriver ?» Et je ne vais pas lâcher l'affaire, et je ne me laisse pas impressionner si on se moque de moi, et la montagne, je vais la gravir, et l'eau, je vais quand même aller dedans,
et la neige, je vais
quand même m'y enfoncer. Et puis je vais m'en sortir, et puis de toute façon un jour je voyagerai, et puis c'est pas parce que je suis handicapée qu'il faut que je me cache. Non, c'est un... Et en même temps, c'est tout ça, dit avec... Il n'y a jamais de discours, c'est jamais revanchard, mais c'est fait avec énormément de délicatesse et de force. Moi j'admire, c'est très bien fait, et il y a toujours aussi ce plan artistique. Et puis la vision de la grand-mère aussi, qui a toujours ce côté à la fois positif qu'elle inculte à sa petite fille.
Concret, quand elle fait sa cuisine.
Positif et poétique et porteur.
Et en même temps,
elle est toujours là, elle lui dit jamais « je t'aide, je suis là ». Mais elle le fait. Elle lui donne confiance toujours. Et elle la tire vers le haut avec une infinie délicatesse qui n'est pas si facile.
Et puis, bien sûr, il y a les interrogations dans ce dialogue entre la petite fille et la grand-mère. Il y a l'interrogation sur « mais au fait, mes parents, qui c'était ?» Et cette recherche. Et on voit la grand-mère qui prend tout son temps pour réfléchir à chaque mouvement de ses pièces. C'était un navire de recherche océanographique. Entré au port avec un radar en panne ou un problème d'hélice. Certains ont prétendu que l'équipage, tellement absorbé dans l'observation des baleines, avait laissé... l'hélice se perdre. Il fallait bien la remplacer. Une fois la réparation terminée, le navire pourrait reprendre la mer. Ça a pris une semaine. Ta mère ne pensait qu'aux oiseaux du ciel, ton père qu'aux animaux marins. Je crois qu'ils se sont rencontrés à mi-chemin dans le jardin de la rhubarbe.
La fameuse rhubarbe qui trouve son explication.
Voilà, d'où le titre « Le rouge vif de la rhubarbe ». Un livre, là aussi, qui nous emmène... dans un univers singulier, passionnant. Le livre est très bien écrit et nous sommes toujours entre le terre-à-terre de cette cuisine, de cet univers, de cette montagne qu'il faut gravir, de cette neige où il fait froid, et puis en même temps l'espace, le ciel.
Et Dieu, qui est là quand même tout le temps, on en parle beaucoup.
Parce que
discrètement, mais toujours. Même voilà. La petite.
En tout cas, un livre que l'on prend et qu'on ne lâche plus. Et on vous dit, chers auditeurs, bonne lecture, bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.